17h.
Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, il est 7h à Tanger et Paris, 6h à Dakar et en temps universel.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et à la fin, Nemo, ce sont les Lions qui gagnent.
D'abord ceux de la Teranga, les Sénégalais se hissent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations après leur court succès sur l'Égypte. Puis ceux de l'Atlas, les Marocains à domicile, vainqueurs du Nigeria au tir au but. Duel rugissant prévu dimanche à Rabat. Nous sommes en ligne ensuite avec notre correspondant à Téhéran. Voilà 19 jours que la contestation a démarré en Iran. Les autorités disent avoir repris le contrôle total de la situation alors que sur elle les menaces d'intervention militaire américaine. Les États-Unis qui passent à la phase 2 de leur plan de paix pour Gaza après la mise en place d'un comité palestinien de gouvernance technocratique. Et puis peu d'annonces mais des divergences claires en revanche entre le Danemark et les États-Unis alors qu'était évoqué ce mercredi à la Maison-Blanche l'avenir du Groenland, obsession de Donald Trump.
Les lions plus forts que les pharaons.
Un match tendu, haletant à Tanger, rencontre hachée, pas mal de fautes. Et un seul but, celui de Sadio Mané à la 78e minute pour le Sénégal face à l'Égypte. Frappe hors de la surface de réparation qui libère tout un peuple et qui envoie un pays en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage dans le quartier Mamel, dans le centre-ville de Dakar, signé Léa Lisa Vesteroff.
À 15 minutes de la fin, inespéré, le but de Sadio Mané. La joie explose, c'est le soulagement.
Sénégal a marqué.
T'es content?
Oui.
Eve, un cœur aux couleurs du Sénégal sur la joue, est venue avec ses deux enfants.
Ça fait du bien, on l'attendait sous la main, il nous en faut un autre quand même.
Pour les milliers de supporters venus assister au match au pied du monument de la Renaissance, la joie explose comme les feux d'artifice dans le ciel.
Final! Très content, on est très très content, vraiment. On n'a même pas les mots.
D'ailleurs, Moussa, qui a suivi tous les matchs, a encore du mal à y croire.
Ça a été très stressant parce que l'Égypte est une équipe très tactique. Et à tout moment, on s'attendait à ce que le Sénégal tombe dans son piège. Mais heureusement, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de motivation.
Et en attendant, dimanche et la finale, Dakar savoure sa qualification.
Waouh, on est fiers d'être Sénégalais. Sénégalais, rec, Sénégalais, rec.
Léa-Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Le Sénégal qui sera privé pour la finale de son capitaine, Kalidou Koulibaly, sorti sur blessure et de toute façon suspendu après avoir reçu un carton jaune en début de match. Les Lions de la Teranga face à ceux de l'Atlas. Dimanche, les Marocains à domicile ont écarté le Nigeria après les tirs au but et un grand Yacine Bono dans les cages. Maroc-Sénégal, la finale de cette CAN à Rabat à 19h TU. À suivre en intégralité sur les antennes de RFI si vous nous écoutez en Afrique. La veille, Nigeria-Égypte à Casablanca.
Une semaine de coupure d'internet en Iran et forcément des informations compliquées à vérifier.
Notamment sur le nombre de morts qu'a fait la répression près de 3 semaines après le début du mouvement de contestation. 3428, disait hier soir l'une des ONG de référence, Iran Human Rights. Mais c'est un minimum absolu, dit-elle, alors qu'on parle d'au moins 10 000 personnes arrêtées. De son côté, l'ONG Amnesty International évoque des massacres d'une ampleur sans précédent. Néanmoins, la répression s'atténue et les tueries prennent fin. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Lui qui, ces derniers jours, a fait planer la menace d'une intervention militaire américaine. Pendant ce temps-là, Téhéran, via Abbas Abakchi, son chef de la diplomatie, a assuré que les autorités avaient repris le contrôle total de la situation et que le calme régnait, tout en précisant qu'aucune pendaison n'était prévue ni hier ni aujourd'hui. On le disait, Internet est coupé. En revanche, les communications téléphoniques de l'Iran vers l'étranger ont été rétablies, ce qui permet à notre correspondant Siavosh Ghazi de nous joindre. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Siavosh, après les déclarations d'Abbas Abakchi, se dirige-t-on vers une suspension des exécutions en Iran ?
Alors, il semble, dès hier soir, un peu avant les déclarations du président Trump, l'agence de presse Mizan, qui dépend de la justice iranienne, a démenti la condamnation à mort d'Erfan Soltani, un jeune Iranien qui avait été, donc, selon des informations données par certaines organisations des droits de l'homme, qui aurait été condamné à mort et donc devait être exécuté mercredi. Cette agence donc a démenti cette information. Selon Mizan, Erfan Soltani qui a été arrêté samedi est détenu dans une prison à Karaj, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Téhéran, et il est accusé d'action contre la sécurité nationale et de propagande contre le régime, ce qui vaut en général en Iran une peine maximale de 5 ans ou 7 ans de prison, donc maximale. Donc la justice a démenti l'information sur sa condamnation à mort et sa pendaison. Sur les autres dossiers, donc on n'a pas d'informations sur d'éventuelles peines prononcées, notamment sur les dossiers transmis d'ores et déjà à certains tribunaux qui doivent les traiter en priorité, selon le procureur général du pays, des gens donc qui auraient commis donc des actions violentes durant les manifestations. Et pour l'instant, il n'y a aucune communication sur d'éventuelles peines prononcées ou de jugements dans ces dossiers.
Siavosh, rapidement, hein, il est 9h35 sur place. Quelle est la situation ce matin à Téhéran?
Alors là, la situation est plutôt calme. Les manifestations en général avaient lieu le soir, la nuit tombée. Et donc hier soir, pour la troisième nuit consécutive, la situation était calme dans les rues de Téhéran, dans la capitale iranienne. Il n'y a pas eu de nouvelles manifestations. Un retour à la normale, même si la situation est très tendue. On sait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées, beaucoup de personnes arrêtées. Lorsqu'on parle aux gens, beaucoup racontent avoir un ami, un proche qui a été blessé ou qui a été tué. Donc la situation reste très tendue et les Iraniens sont très en colère après la répression qui a mis fin au mouvement de protestation, en particulier entre jeudi et dimanche dernier.
Merci Siavosh Gaji en direct de Téhéran pour RFI. Sachez qu'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue ce jeudi et que les cours du pétrole ont chuté de 3% après les annonces de Donald Trump.
Donald Trump qui laisse son émissaire Steve Witkoff annoncer l'entrée du plan de paix américain pour Gaza dans sa phase 2.
Étape supplémentaire qui commence par la mise en place d'un comité de gouvernance palestinien acté en Égypte hier par toutes les composantes palestiniennes. Frédéric Misselin, vous êtes à Jérusalem pour RFI. Frédéric, c'est certes une étape clé, mais de nombreux points sont encore à éclaircir.
Oui, la mise en place de cette nouvelle phase patinait depuis des semaines, notamment parce qu'elle était conditionnée au retour de tous les otages israéliens. Or, il reste dans la bande de Gaza une dépouille, celle de Ran Gvili. Le premier ministre israélien s'est entretenu hier avec sa famille. Benjamin Netanyahou leur a dit que le retour du corps de leur fils reste une priorité absolue. Dans les faits, le plan avance coûte que coûte sous forte pression des Américains qui veulent du concret. L'annonce a donc été faite hier du comité de gouvernance palestinien. Un comité technocratique composé de 15 membres qui vont assurer la gestion au quotidien de Gaza. À la tête de cet organe, un ancien ministre palestinien, Ali Shams. Le journal Haaretz assure que la liste de noms a été validée par l'État hébreu.
Alors Frédéric, un nouveau gouvernement à Gaza se met en place et l'objectif maintenant c'est le désarmement du Hamas. Est-ce que c'est envisageable ?
Eh bien, le Hamas a fait savoir qu'il était prêt à ne pas participer à la future gouvernance de Gaza. Il est au pouvoir dans l'enclave depuis près de 20 ans. La question du désarmement, elle, est plus épineuse. Le mouvement islamiste a toujours refusé jusqu'à présent. Les collaborateurs de Donald Trump insistent sur le fait que le Hamas pourrait évoluer sur ce point. Il y a des hypothèses de travail, une forme de stockage de l'armement lourd qui ne serait plus utilisé. Une force internationale de stabilisation doit également se déployer. L'armée israélienne doit se retirer. Elle occupe actuellement 53% de l'enclave. La suite, ce pourrait être la réouverture du point de passage de Rafah et l'annonce du Conseil de la paix présidé par Donald Trump.
Frédéric Misselin, envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem.
L'avenir du Groenland en question hier à la Maison Blanche.
Washington, où les ministres danois et groenlandais des affaires étrangères étaient reçus, non par le locataire des lieux, mais par le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, entrevue refermée sur un constat de désaccord fondamental entre les États-Unis d'un côté, le Danemark et le Groenland de l'autre. Correspondance depuis New York, Karine Houghton.
Même si Donald Trump n'était pas présent lors de la rencontre, il a mis la pression quelques minutes avant qu'elle ne débute. Le président américain a répété que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il avait déjà expliqué que c'était pour contenir les avancées de la Russie et de la Chine en Arctique. Hier, pour la première fois, il a avancé que le territoire autonome danois était essentiel à la construction du projet américain de bouclier antimissile, le Dôme d'Or. À la sortie de sa rencontre avec Marco Rubio et J.D. Vance, le ministre danois des Affaires étrangères a lui dénoncé la volonté de Donald Trump de conquérir le Groenland. Lars Løkke Rasmussen.
Le président a clairement exprimé son point de vue et nous avons une position différente. Pour nous, des idées qui ne respecteraient pas l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark ni le droit à l'autodétermination du peuple groenlandais sont bien entendu totalement inacceptables.
Il a précisé qu'un groupe de travail entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland allait être mis en place d'ici quelques semaines pour voir si ce désaccord fondamental concernant la sécurité à long terme du territoire peut être dépassé. Karine Houghton, New York, RFI.
Donald Trump qui sera bel et bien à la Maison-Blanche aujourd'hui pour recevoir l'opposante vénézuélienne et récente prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. Hier, il s'est entretenu avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez. Peu de choses ont filtré, mais elle assure que l'appel a été long, productif et courtois. Alors que le 3 février prochain, ce sera au tour de Gustavo Petro, le président colombien, d'être reçu à Washington. Internet coupé, on en parlait en Iran. C'est aussi le cas depuis mardi soir en Ouganda pour des raisons de sécurité, selon les autorités, alors que se tiennent aujourd'hui la présidentielle et les législatives. Forte tension sur place, preuve en est avec un déploiement militaire impressionnant, notamment à Kampala. Pour la magistrature suprême, 8 candidats, dont le sortant Yoweri Museveni, 81 ans, près de la moitié au pouvoir, mais aussi Bobby Wine, chanteur star devenu principal opposant.
Une question inscrite dans le questionnaire de recensement de la population française fait débat.
Quel est le lieu de naissance de vos parents? Alors que l'opération démarre aujourd'hui et concerne un total de 8000 communes, cette question fait réagir ONG et syndicats qui appellent à ne pas y répondre à Rambeng.
5 organisations nationales, dont la Ligue des droits de l'homme et un collectif de chercheurs, appellent les populations concernées par le recensement à ne pas répondre à la question numéro 7, qu'ils jugent inutile et dangereuse. Jean-Robert Suesser de la LDH.
Elle est inutile parce qu'il n'y a pas de politique publique et le recensement, c'est pour les politiques publiques. Elle est dangereuse parce que les origines aujourd'hui, la description des origines, elle est dangereuse parce qu'elle est utilisée par l'extrême droite. On a continué tout au long de l'année à demander aux gens qui étaient pour cette question quelle pourrait être son utilisation pour les politiques publiques. Nous n'avons toujours pas eu de réponse. On n'a rien eu.
Réponse de Muriel Barlet, chef du département de la démographie à l'INSEE, sur l'utilité de cette question sur les origines.
Il y a eu un large débat avant l'introduction de cette question. Et l'issue de ce débat, c'est qu'il y avait un avantage à garder ces questions, notamment pour éclairer les questions de ségrégation au niveau local.
Les organisations de défense des droits humains craignent donc pour leur part une utilisation des données issues du recensement à des fins discriminatoires. Elles appellent à ne pas y répondre, d'autant plus que cette question est facultative.
Rambeng, Service France de RFI.
Et Nemo en piste pour le journal. Merci. 7h13 à Paris dans 5 minutes. Notre grand invité international, Lucas Chancel, professeur d'économie à Sciences Po, auteur de Énergie et inégalité, une histoire politique publiée aux éditions du Seuil. Elle répond à Guilhem Del à 7h20. De retour pour l'information sportive, Christophe Diremzian, vous nous parlez de football Maroc-Sénégal. Ce sera donc le dénouement de la CAN 2025, le pays hôte. Et les champions d'Afrique 2022 se sont qualifiés pour la finale au bout de l'effort.
Les Lions d'Atlas ont dû leur salut face au Nigeria qu'au tir au but, 4-2, 0-0 à l'issue de la prolongation. Puis deux arrêts décisifs de Yacine Bounou pour décider du sort de ce match où les Marocains auront fait mieux que rivaliser. Ils ont eu davantage d'occasions que des Super Eagles, bien décevants, mais qui ont quand même donné du fil à retordre aux Marocains, comme le confirme le sélectionneur Walid Regragui.
C'est un des matchs les plus difficiles. Hein. On est tombé sur une vraie équipe solide, tactiquement en place, athlétiquement, on a beaucoup couru pour les contrer, beaucoup de talent. C'est une équipe qui avait mis 14 buts. Je crois qu'ils ont tiré deux fois et un tir cadré. Comme quoi, les joueurs, ils élèvent leur niveau. En tout cas, je suis très, très, très heureux pour les joueurs. Pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert. Et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau.
Propos recueillis par Christophe Jousset. Première finale des Marocains depuis 2004. Et un seul adversaire encore à battre pour obtenir le Graal. Le Sénégal, tombeur de l'Égypte, 1-0.
En Espagne, Christophe, début raté pour Alvaro Arbeloa comme entraîneur du Real Madrid.
Et oui, premier match sur le banc. Première défaite pour le successeur de Xabi Alonso. Le Real est tombé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Roi face à Albacete, avant-dernier de la deuxième division. Ce qui rend l'élimination encore moins acceptable, reconnaît le nouveau technicien.
Dans ce club, c'est déjà une tragédie de faire un match nul. Alors imaginez-vous une défaite encore plus comme celle-là. C'est douloureux. J'imagine que ça l'est encore plus pour nos supporters. Encore plus car nous avons perdu contre une équipe de division inférieure. Même si nous connaissons les difficultés que posent nos adversaires, quels qu'ils soient. Nous l'avions déjà vu lors du match contre Talavera. Donc à partir de là, il faut s'améliorer. Et s'il y a un seul responsable de cette défaite, c'est évidemment moi, car c'était mes décisions et mes changements.
Et à suivre aujourd'hui dans cette coupe, le FC Barcelone en déplacement à Santander, autre club de D2.
Handball à présent, un mois tout juste après la médaille de bronze mondiale des dames, c'est au tour de l'équipe de France masculine de se lancer dans l'Euro 2026.
Organisé au Danemark, en Norvège et en Suède, les Bleus, tenants du titre, sont à Oslo pour un tour préliminaire où ils commenceront par la République tchèque. Ils visent un cinquième titre et un doublé d'autant plus difficile à obtenir que les Français devront pour cela à un moment se mesurer aux Danois, champions olympiques et du monde en titre. L'arrière tricolore Elohim Prandi reconnaît leur supériorité mais ne s'empêche pas de penser à leur jouer un mauvais tour.
Aujourd'hui, ils sont rodés, ils ont une équipe très homogène mais très fiable et avec beaucoup de gros joueurs. Mais en tant que compétiteur, en fait, qu'est-ce que ça vaut de mettre une clim dans le pays hôte? Face au pays hôte, ça pourrait être assez fort, comme les anciens qui ont fait contre la Croatie en Croatie. Bah, ça peut faire énormément de choses. Je me souviens en 2023, la Suède en Suède face à 30 000 personnes en demi-finale. C'est un côté jouissif. Maintenant, on n'y est pas encore. On doit encore se roder. Ça monte vite, mais crescendo aussi. Donc, step by step. Je ne me projette pas aussi loin à l'heure actuelle.
Elohim Prandi, qu'on laisse finir. France-République tchèque à Oslo, coup d'envoi 17h, TU.
Christophe Diremzion, 7h16 à Paris.
RFI Matin.
Aujourd'hui, l'économie sur RFI avec ce matin un sujet crucial pour comprendre l'économie mondiale. Parlons des stocks stratégiques des pays. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
On s'intéresse tout particulièrement aux stocks stratégiques de la Chine au cœur d'une nouvelle note de l'Institut Montaigne dont vous nous dévoilez en exclusivité les conclusions. Stéphane, ce matin, les stocks de Pékin, on parle ici de nourriture, d'énergie ou de métaux, sont impressionnants. Il faut le dire, la Chine fait partie des pays qui stockent le plus massivement au monde, c'est indispensable pour elle.
Exactement, et pendant longtemps l'économie mondiale a fonctionné sur un principe simple, on ne stocke pas, on fait circuler, l'idée étant que le marché s'autorégule. Mais la Chine n'a jamais vraiment cru à cette logique de flux, hein, disons sans filet. Pour Pékin, stocker, c'est un acte de souveraineté. Et le rapport de l'Institut Montaigne va précisément dans ce sens. Les stocks sont au cœur de la stratégie chinoise, au même titre que la technologie ou l'armée. Trois tendances pour bien comprendre. Aujourd'hui, si on parle des stocks à l'échelle mondiale, la Chine possède 2/3 du maïs, la moitié du blé et 1/3 du soja.
Et alors, pourquoi stocker des denrées alimentaires, par exemple? Pourquoi c'est aussi essentiel?
Eh bien parce que pour 1,4 milliard d'habitants, c'est tout bête, mais l'alimentation, c'est un enjeu politique majeur. D'abord, pour éviter une pénurie qui provoquerait des troubles sociaux massifs. Ensuite, parce que la Chine est devenue le premier importateur agricole mondial. Tenez-vous bien, son budget consacré au stock alimentaire est 20 fois supérieur à celui de tous les PE. De tous les pays de l'OCDE réunis. Officiellement, ces stocks permettraient de nourrir la population pendant plus d'un an en cas de crise grave.
Si vous dites officiellement, Stéphane, c'est aussi parce qu'il y a une raison officieuse.
Et oui, car ces stocks servent aussi à intervenir sur les marchés. Quand les prix sont élevés, la Chine relâche des stocks. Quand ils sont bas, elle achète massivement. En sous-texte, donc, Pékin est un peu comme le métronome du grenier du monde et se donne le pouvoir de régler le tempo des marchés. Autrement dit, quand la Chine achète ou n'achète pas, la planète planète tout entière le ressent.
Et ça permet à la Chine de se protéger d'un conflit commercial.
Exactement, c'est d'ailleurs la même chose en ce qui concerne l'énergie. Depuis 2003, Pékin construit l'une des plus grandes réserves stratégiques de pétrole au monde. L'ambition, c'est d'éviter un blocage maritime en cas de crise autour de Taïwan, mais aussi en cas de sanctions occidentales. Et puis l'autre pilier de la stratégie, Andréane, ce sont les métaux et les minéraux critiques indispensables à la transition énergétique et environnementale. Terres rares, lithium, cobalt, nickel. Le projet est de sécuriser son approvisionnement et de peser à l'échelle internationale.
Autrement dit, peser au détriment des pays occidentaux.
Voilà, car stocker à grande échelle, ça crée des tensions sur l'offre mondiale, ça implique des hausses de prix et une dépendance toujours plus forte vis-à-vis de la Chine. L'Europe ou les États-Unis prennent d'ailleurs conscience de la situation. La France, par exemple, elle commence à reparler, à reconstituer des stocks stratégiques comme sur l'énergie, sur les médicaments ou les matières premières critiques. Mais au-delà de l'économie basique, ces stocks ne servent pas seulement à se protéger. Non, c'est bien plus subtil, on l'a compris. Aujourd'hui, stocker, ça sert aussi à influencer les autres.
Stéphane Genest pour Aujourd'hui l'économie. Et pour aller plus loin sur ce sujet, vous retrouvez en ligne l'analyse de Pierre Pinasse, auteur de ce rapport de l'Institut Montaigne. C'est à retrouver sur RFI.fr. RFI Matin, notre grand invité international à 7h20 en ligne avec Guilhem Delteil, Lucas Chancel, professeur d'économie à Sciences Po, auteur du livre « Énergie et inégalité, une histoire politique » publié aux éditions du Seuil.
Bonjour Lucas Chancel.
Bonjour.
Il demeure un désaccord fondamental entre le Danemark et les États-Unis sur l'avenir du Groenland. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre danois des Affaires étrangères après une rencontre à la Maison Blanche à Washington. La France, l'Allemagne, la Suède et la Norvège, de leur côté, ont commencé à déployer du personnel militaire dans ce territoire autonome sous souveraineté danoise. Un territoire alors stratégique, mais également au sous-sol riche en ressources minérales. À quel point ces ressources sont cruciales pour les Américains et les Européens ?
Alors, selon l'administration américaine, le sous-sol du Groenland dispose de 43 matières premières critiques essentielles sur une liste de 50 établies donc par l'administration américaine. Donc là, on voit à quel point le Groenland est un véritable Eldorado potentiel pour les États-Unis. À quoi servent ces matières premières critiques? Eh bien, elles sont clés dans le secteur de la défense et dans le secteur notamment de l'électrification automobile. Donc la défense, on voit bien pourquoi les Américains pensent en avoir besoin. Pour l'électrification automobile, eh bien en fait, ils veulent surtout empêcher les Chinois d'accéder à ces ressources. Donc on revient dans une logique de prédation impériale, de volonté de contrôle de la terre. Par ailleurs, il y a probablement aussi de grandes réserves de pétrole sous le sous-sol du Groenland. Il pourrait y avoir jusqu'à 30 milliards de barils de pétrole, selon une étude récente. Et Trump a compris que ceux qui contrôlent l'énergie contrôlent le monde au XXIe siècle. Il ne veut pas que ce contrôle de l'énergie soit fait par les Chinois ou les Européens à travers les renouvelables, à travers les politiques de décarbonation. Et donc, il veut revenir à une énergie carbonée, une énergie liée au pétrole. C'est hélas d'une cohérence redoutable, puisque le Venezuela, il y a quelques semaines, l'invasion, en tout cas l'intervention américaine, consiste également...
C'est ça, on retrouve au cœur de cette politique américaine, ou c'est cette quête d'énergie fossile qu'on retrouve au cœur de l'opération américaine, l'enlèvement de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, il y a une quinzaine de jours.
Alors absolument, hein, au Venezuela, les arguments sur la drogue ne tiennent pas, hein, puisque l'administration américaine a relâché il y a quelque temps un ancien chef d'État qui a été jugé dans une affaire de drogue, et les arguments sur la démocratisation du pays ne tiennent pas non plus, puisque les États-Unis vont soutenir des régimes autoritaires aux quatre coins du monde, notamment l'Arabie Saoudite, précisément pour des liens à la fois stratégiques, liés aux ressources ou à la défense. Donc ce qui reste, c'est l'argument des ressources, l'argument du pétrole, et encore une fois... Trump a bien compris là que c'était tout à fait important, stratégique, en tout cas dans sa perspective de puissance, de contrôle brutal du monde, c'était stratégique d'y avoir accès. Il faut aussi noter que les multinationales pétrolières ont financé la campagne de Donald Trump. Elles ont l'oreille du président, elles retrouvent d'une certaine manière la monnaie de leur pièce, même si le pétrole vénézuélien n'est pas directement exploitable, il va falloir faire des investissements extrêmement importants. Ce secteur a subi un sous-investissement chronique depuis des décennies, mais les réserves prouvées sont extrêmement conséquente. On parle de 300 milliards de barils, première réserve mondiale. On peut discuter des chiffres, mais les valeurs sont extrêmement importantes. Et les États-Unis disposent aussi des raffineries qui permettent de retraiter ce pétrole, qui est une particularité, qui s'appelle trop lourd. Et les États-Unis disposent déjà d'une partie de l'arsenal du capital technique pour traiter ce pétrole. Donc, c'est
il lui
une
faut aussi mobiliser le secteur privé. Ce qu'il a essayé il avait aussi essayé de mobiliser le secteur privé la semaine dernière, et pour l'instant on voit que les grandes compagnies pétrolières sont un peu timides à lui emboîter le pas sur un investissement plus conséquent au Venezuela. Sa stratégie va quand même prendre du temps à se mettre en place.
Il a une stratégie de moyen et long terme. Trump, là, il raisonne sur une logique impériale sur des décennies. Alors, là où le court terme entre en jeu, et je pense qu'il faut absolument avoir en tête aussi cette dimension, c'est que Trump est très bas dans les sondages. Il a baissé de manière assez constante depuis son élection. Et ces derniers mois, ce qui occupait la presse américaine, c'est quand même l'affaire Epstein. Et ses liens avec le milliardaire mort en prison pour ce scandale de traite d'humains, de pédophilie. Et donc, il détourne l'attention en faisant ça, Donald Trump. Et il a d'une certaine manière réussi à réduire l'importance de ce sujet-là dans la presse américaine. Le court terme, là, entre aussi et vient s'articuler avec cette vision stratégique de long terme. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que tout ça ne serait qu'un coup de tête. Non, il y a une pensée nouvelle qui consiste à se dire quoi ? Le monde est fini, les ressources du monde sont finis. Et face à cette finitude matérielle du monde, il faut capturer de la terre, de nouvelles terres, si on veut continuer à le dominer. C'est ça la pensée, la vision stratégique déployée par Donald Trump au Venezuela et au Groenland.
Et comment peuvent répondre sur ces questions énergétiques, d'accès aux ressources, en fait, les autres pays ? Est-ce qu'il faut se lancer dans cette même quête, ou est-ce qu'il y a des modèles alternatifs de développement qui pourraient être mis en place ?
Alors, l'alternative aux fossiles, elle est connue, elle est viable et elle est nécessaire pour la planète et pour la protection du climat, c'est les énergies renouvelables. Donc les Européens, notamment le Sud global, peuvent développer des alternatives aux énergies fossiles. Ça permet aux pays qui ne dépendent pas, qui n'ont pas de ressources pétrolières sur leur sol, de ne pas dépendre du reste du monde. Donc pour de nombreuses régions, notamment l'Europe, c'est stratégiquement une extrêmement bonne idée. Ça permet d'avoir une souveraineté énergétique et ça permet de sauver la planète, de réduire nos émissions de CO2. Et pour les matériaux critiques, des partenariats peuvent être développés avec des régions du monde qui ont ces matériaux critiques. La brutalisation, le retour de cette brutalisation du monde, de la prédation, comme on le voit avec ce nouvel néo-impérialisme américain, va aussi venir avec son lot de chaos. Donc il n'est pas écrit que ce soit totalement dans l'intérêt des Américains de le faire. Il y a évidemment d'autres options possibles, d'autres chemins à tracer. Chemin urgent et nécessaire, c'est la décarbonation, si on veut éviter le dérèglement total de la machine climatique.
Merci Lucas Chancel.
Merci à vous.
Avec Guilhem Deltaï sur RFI, et je rappelle le titre de votre livre « Énergie et inégalité, une histoire politique » publié aux éditions du Seuil.
Les Nuits de la Lecture reviennent du 21 au 25 janvier sur le thème « Ville et campagne », bibliothèques et librairies, écoles et universités, mais aussi monuments, musées et théâtres proposent des événements partout en France et à l'étranger pour transmettre le plaisir de lire. Les Nuits de la Lecture, organisées par le Centre National du Livre, du 21 au 25 janvier. Tout le programme sur nuitsdelalecture.fr, en partenariat avec France Média Monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, avec Chantal Laureau.
L'un écrit, l'autre dessine. Leur dernière BD, Les Montagnes Dorées, nous transporte au fin fond de la Russie, au milieu d'un désert blanc. Sans avenir, les jeunes ont pour seul échappatoire de s'engager dans l'armée, mais ils ne reviendront pas indemnes de la guerre en Tchétchénie. Aurélien Ducoudray et Thomas Azuelos sont nos invités.
Sur le Pont des Arts, du lundi au jeudi à 15h10 TU, sur RFI.
Retrouvez RFI sur YouTube. Ariane Poissonnier.
La Radio Mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde. Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24 heures sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.